Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Vous êtes surpris de nous retrouver un vendredi soir? Bah, pas nous. On avait envie de vous retrouver. Bonsoir à vous. Soyez les bienvenus.
On a vu
et
de
salut
la lumière,
à vous, Thomas.
Voilà, ça va bien, Sidonie?
Ah, mais nous, si on nous fait une place, on s'incruste et on ne vous quitte plus.
Évidemment. Merci de nous être fidèles. Alors, au programme ce soir, des momies. Alors, pas forcément celle de Belphégor, encore que moi, en regardant Belphégor, je croyais que les momies étaient toutes égyptiennes. Alors, il y en a, évidemment, mais les plus vieilles, les premières momies étaient incas.
On partira 7000 ans en arrière, en Amérique du Sud, à la rencontre des peuples Chinchorros et Paracas. Et on vous révélera tous leurs secrets de momification.
Et puis, cette leçon d'histoire à ne jamais oublier, comment Adolf Hitler a pris le pouvoir en remportant les élections, utiliser la démocratie pour écraser ensuite toutes les libertés individuelles.
Et tout de suite, des diamants qui sont éternels, mais pas toujours brillant.
RTL.
Dites-moi, commandeur, j'aimerais savoir jusqu'où vont vos connaissances réelles en matière de diamants.
C'est la substance la plus dure trouvée dans la nature. Ils entaillent le verre, suggèrent le mariage. Je suppose qu'ils remplacent le chien en tant que meilleur ami de la femme.
La curiosité est un vilain défaut.
Diamonds are forever. Jusqu'à 22h. I don't need love. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà, James Bond dans ses œuvres pour nous parler de diamants. Le plus grand diamant rose du monde qui pèse près de 60 carats sera vendu à Hong Kong. Alors pour vous l'offrir, il faudra débourser au minimum 53 millions d'euros. Enfin, c'était son dernier
prix de vente. On peut repousser un peu la vente ?
Oui, parce que je ne suis pas sûr d'avoir ça sur mon PEA. Derrière ces ventes qui font rêver ces diamants stars, il y a un business qui est beaucoup moins reluisant. C'est ce que l'on découvre tout de suite sur RTL avec notre invité, le journaliste Marc Roche. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue. Merci. Alors j'étais resté sur l'idée que la ville d'Anvers était forcément la capitale mondiale du diamant. Alors pourquoi cette vente aux enchères très attendue se fait à Hong Kong ?
Parce que le centre de gravité du commerce diamantaire s'est déplacé sous l'effet de la mondialisation de l'ouest en est. Donc de Londres et d'Anvers vers l'Inde et la Chine. La Chine est le premier consommateur de bijoux avec les États-Unis. Et l'Inde, bien sûr, aujourd'hui, est le premier négociant de diamants, également les plus importantes tailleries. Et donc, le diamant, aujourd'hui, son avenir passe plus par Hong Kong que par Anvers ou par Antès. Les Indiens ont chassé les diamantaires belges. Donc, c'est non seulement...
Ah oui, alors, c'est une caste particulière en Inde, c'est ça qu'on appelle les Jain ou les Jains, je ne sais pas comment on prononce.
Les Jains, c'est Jains. Donc... c'est pas une caste, c'est une communauté, parce qu'ils ne sont pas hindous.
Ah oui.
Et donc, c'est une communauté qui a le monopole du négoce de diamants en Inde, et donc qui s'est installée en Anvers, et profitant de l'aide des banques indiennes après la crise financière, quand les banques belges, après tous les scandales, ont refusé de financer les diamantaires belges, eh bien, les Indiens se sont installés et, forts de leurs liens familiaux, ont transformé Anvers en un deuxième centre diamantaire à côté de Bombay. C'est leur centre diamantaire aujourd'hui. Donc, c'est une mondialisation d'ouest en est et d'est en ouest.
Marc Roche, vous publiez Diamant, enquête sur un marché impur aux éditions Taluyandier. Pourquoi est-ce que c'est un marché impur ?
C'est un marché impur parce que le diamant a toujours fait l'objet de toutes les contrebandes. Il est lié au blanchiment d'argent, puisqu'il y a des tas de scandales de fraude fiscale liés au diamant, notamment le scandale SwissLeaks et HSBC. C'est aussi une matière première liée aux conflits et aux guerres civiles en Afrique, à la corruption, c'est ce qu'on appelle les diamants de sang, au trafic d'armes. Et enfin, le diamant aussi servi à financer des opérations terroristes. On ne parle pas de Daesh, qui n'est pas impliqué dans le diamant, mais certainement d'Al-Qaïda et du Hezbollah.
C'est parce qu'il est précieux et rare qu'il rend fou ? C'est ça, le diamant ?
C'est parce que d'abord, il a beaucoup de valeur. C'est ensuite parce que c'est une pierre unique, puisqu'elle est la plus dure qui soit. Et surtout parce que le diamant débride les convoitises des hommes.
Comment on produit des diamants? Quels sont les principaux gisements? Tiens, on va commencer par ça aujourd'hui sur la planète.
Alors, il y a deux manières de produire des diamants. Il y a une manière industrielle, les grands groupes miniers comme la De Beers qui ont leur propre mine. Ça a un coup d'explosif. Et ensuite, les roches sont passées par tout un processus industriel pour dégager les beaux diamants bruts. Et alors, il y a un deuxième processus qui est beaucoup moins connu, c'est les diamants alluvionnaires. Là, ce sont des creuseurs individuels qui essaient de trouver des diamants dans le lit des rivières. Mais en gros, les diamants, et c'est ça le problème, ils sont dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète, dans le Grand Nord canadien, dans le désert australien, dans la toundra sibérienne et dans la brousse de la République démocratique du Congo. 90% de la production de diamants vient de régions inhospitalières et difficiles à exploiter, d'où le coût élevé de l'exploitation diamantaire.
Alors si on prend le cheminement d'un diamant pour nous les novices, Marc Roche, donc on extrait le diamant par exemple à coup d'explosif et puis après il remonte la pipeline, c'est quoi?
Alors la pipeline, c'est de la mine à la bijouterie et il y a des tas d'intermédiaires qui vont amener ce diamant brut à la bijouterie, à la joaillerie. Donc c'est des centres de négoce où des grossistes vont les vendre au centre des tailles qui vont les tailler et ensuite vont les vendre aux joailliers, aux bijoutiers qui ensuite sont en contact avec le public. Et c'est donc toute la filière, ça s'appelle le pipeline de diamants.
Alors, trouver un diamant énorme, évidemment, ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive régulièrement. Tiens, par exemple, novembre 2015, on est au Botswana, une pierre grosse comme une balle de tennis et pourtant, sa vente aux enchères a capoté. On va vous raconter comment dans une minute sur RTL. Diamonds are forever.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. RTL.
Première radio de France.
RTL.
Le diamant, c'est juste une pierre transparente, tu vois. On décide que ce caillou vaut cher et ça crée de la richesse.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça t'intéresse, le diamant?
Ouais.
Jusqu'à 22h.
Ce qui fait la différence, c'est l'œil. Qu'est-ce que tu en dis?
Je crois pas que ce soit un diamant, ça.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un extrait du film Le Diamant Noir et puis cette chanson des Pink Floyd, Shine on your crazy diamond. Les diamants nous font rêver et pourtant derrière les belles bagues et les ventes records, il y a un marché sulfureux et des hommes souvent sans scrupules. C'est ce que nous raconte notre invité, le journaliste Marc Roche. Qui sont les géants du diamant? Vous avez évoqué tout à l'heure assez rapidement De Beers.
Alors les géants du diamant sont des grands groupes miniers cotés en bourse. Alors il y a bien sûr historiquement la compagnie sud-africaine De Beers qui a créé le marché du diamant. Mais aujourd'hui, il y a des tas d'autres compagnies canadiennes, australiennes ou américaines qui explorent le monde entier à la recherche des diamants.
De Beers est aussi un bijoutier, me semble-t-il.
De Beers, en effet, avec LVMH, avec le groupe de luxe français, a créé une série de magasins de bijouterie pour justement couvrir toute la chaîne du diamant.
Le fameux pipeline
de la mine à la bijouterie.
Trouver un diamant hors norme, c'est ce qui est arrivé. Tiens, par exemple, en novembre 2015, ce diamant énorme faisait 1109 carats. Alors, je ne me rends pas bien compte. 1109 carats, c'est le poids, c'est ça, les carats?
Les carats, c'est le poids. William Lamb, qui est un Canadien, un aventurier, découvre ce diamant qui fait 1109 carats, ça fait une balle de tennis.
C'est énorme,
dans le désert du Kalahari, au Botswana, qui est donc frontalier avec l'Afrique du Sud, qui est un gros producteur de diamants. Et William Lamb est un aventurier, lui ne veut pas suivre la filière traditionnelle de la mine à la bijouterie, qu'aurait voulu qu'il cède ce diamant, un grossiste qui l'aurait vendu à un centre de taille. Et ensuite, ce diamant serait devenu un pendentif, par exemple. Donc, lui décide de le vendre directement au plus offrant, au plus cher, en organisant une vente aux enchères.
Et en la médiatisant, forcément.
Et en la médiatisant, puisque Sotheby's l'organise à New York. Ouais. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le secteur du diamant est un secteur secret, opaque, solidaire, un oligopole, et qui reste dominé par les grands acteurs historiques, en particulier la De Beers, mais aussi les grands bijoutiers. Et eux vont torpiller cette vente.
C'est-à-dire, n'allez pas trop vite, lui, il en espérait combien de millions de dollars
Entre 100 et 150 millions.
Donc, fantasmait en tout cas une vente aux enchères historique.
Et Sotheby's se disait, ben oui, on va, puisqu'ils ont 10% des ventes, du prix de vente, on dit, mais oui, s'il veut entre 100 et 150 millions, mais nous, ça fait 10 à 15 millions dollars de bénéfices. Donc, il le propose à Sotheby's qui organise la vente. Les diamantaires, qui ne veulent pas se faire court-circuiter, lancent une rumeur comme quoi ce diamant, eh bien, il a des problèmes à la taille. Or, la taille est, dans le processus diamantaire, la partie la plus risquée. Vous pouvez détruire un diamant à la taille, puisqu'il faut le couper, il y a des impuretés, et le diamant peut littéralement se transformer en poussière, malgré le savoir-faire des artisans.
Donc, ils font une mauvaise réputation à ce diamant qu'ils connaissent à peine, finalement.
Une mauvaise qu'ils n'ont jamais vue. Et à cause de cela, personne n'achète ce diamant. Et donc, Sotheby's est obligé de le retirer à la vente. Et que fait William Lamb? Eh bien, il vend son diamant dans la filière traditionnelle qui est tellement secrète qu'on ne sait pas à qui, pour combien et qu'est-ce qu'il est advenu de ce diamant.
Donc on ne sait pas si ça lui a rapporté 1, 2, 10 millions d'euros ou de dollars.
On peut
l'évaluer, c'est ça?
On se doute sans doute que c'est autour de 100 millions de dollars qu'il a vendu ce diamant. Quand même, donc il va faire un gros bénéfice.
Donc c'est un aventurier riche maintenant.
C'est un aventurier qui était riche parce qu'il ne fait que du diamant. D'accord. Donc il doit être riche.
Ouais. Ce diamant, il s'appelle Lézédi Larona. Ça veut dire quoi, ça?
Notre lumière dans le dialecte du Botswana et du Kalahari, parce que c'est un endroit désertique et où vivent des tribus qui, d'ailleurs, sont menacées par les chercheurs de diamants.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est... Alors, j'allais dire, on lui donne un nom quand les diamants sont extraordinaires. On les nomme forcément parce que ça leur donne de la valeur. C'est aussi du marketing. Mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que les gens qui vivent dans ces régions, qui devraient profiter de la richesse du diamant, en fait, ils en souffrent souvent?
Ils en souffrent la plupart du temps parce que qui dit diamant dit corruption. Qui dit diamant dit gouvernement qui ont intérêt à ce que les gens qui vivent là soient un autre endroit. Et donc, ils les déplacent de force. Et le Botswana n'a pas été différent de ce qui s'est passé dans des tas de pays, notamment en République démocratique du Congo.
Marc Roche, vous publiez un livre, Diamant, enquête sur un marché impur aux éditions Thaïlandais. Vous dites que la production mondiale représentait en 2015 127 millions de carats. On va vous transformer ça en dollars, ça fait 14 milliards de dollars. Est-ce que c'était une bonne année?
Écoutez, pour l'instant, le prix du diamant est bon parce qu'il y a beaucoup plus de demandes, notamment de Chine, les nouveaux riches chinois, que d'offres, parce qu'il n'y a aucune mine a été découverte depuis 20 ans.
Et oui, parce qu'elles ne sont pas inépuisables.
Elles ne sont pas inépuisables. Alors, le progrès technique fait qu'on peut faire durer leur vie, mais en gros, il n'y a plus aujourd'hui de nouvelles mines de diamants.
Des histoires de diamants, notre invité en a encore plein à nous raconter. Par exemple, quand le top modèle Naomi Campbell se retrouve au beau milieu d'une affaire de diamants pas très propre. A tout de suite sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dans la curiosité, on découvre les dessous pas très chics du marché du diamant avec le journaliste Marc Roche qui a mené une longue enquête pour un livre publié aux éditions Thalandier. Marc Roche, vous connaissez bien ce monde et pour cause, vous êtes né dedans en quelque sorte?
Oui, mon père était diamantaire et je le connais très bien et je connais surtout ses codes, c'est-à-dire le code du secret. C'est un milieu solidaire, très difficile pour un journaliste de le pénétrer. Mais heureusement, il y en a quand même qui y parviennent. Et je crois y être parvenu grâce aux liens familiaux. Vous savez, dans le monde du diamant, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas.
Alors, il y a quand même des choses qui sont connues. Par exemple, il y a une règle pour fixer les prix qu'on appelle la règle des 4 C. Alors, c'est de l'anglais, vous allez nous dire les 4 C, c'est quoi ?
Alors, il n'y a pas de cours du diamant, à l'inverse de l'or ou du platine. Et le prix, eh bien, il est sur chaque diamant différent parce qu'il n'y a pas de diamant semblable. Ouais. Alors, l'échelle, il y a 4 critères. Cut, c'est-à-dire taille. Cara, c'est le poids. Clarity, c'est la pureté. Et color, c'est la couleur. Et avec ces 4 critères, on peut évaluer, surtout si vous êtes un professionnel, le marché du diamant et la valeur du diamant.
Alors avec vous, on est dans les coulisses de la fabrication et de la naissance d'un diamant, Marc Roche. Dans quelles conditions ces diamants sont produits ? Par exemple, comment sont traités les mineurs ?
Les mineurs sont traités différemment selon les pays où ils travaillent. C'est-à-dire qu'au Canada ou en Australie, les exploitations sont très modernes et la main-d'œuvre est très bien payée vu les conditions très difficiles. Au Canada, il fait froid, il fait glacial, c'est près de l'Arctique. Et en Australie, il fait très chaud. Et donc, c'est un corps d'élite. En revanche, en République démocratique du Congo, au Zimbabwe, en Centrafrique et dans toute l'Afrique en général, à l'exception de l'Afrique du Sud, les travailleurs du diamant sont exploités. Il y a des atteintes aux droits de l'homme et il y a vraiment un décalage entre la beauté de ce produit et le sort de ceux qu'il extrait de la terre.
Alors, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, Blood Diamond, avec Leonardo DiCaprio, qui, de mémoire, racontait une histoire de contrebande de diamants qui finançait une sale guerre. C'est crédible ? C'est inspiré de faits réels ?
C'est totalement inspiré de faits réels. D'ailleurs, la réalité dépasse la fiction parce que le film a pour cadre la guerre civile en Sierra Leone. Et cette guerre civile a été atroce avec des massacres, des mutilations, des enfants soldats, des viols. Et là, Blood Diamonds passe un peu rapidement dessus. C'est Hollywood.
Mais en fait, mais ça veut dire que le commerce illégal de diamants finançait la guerre, c'est ça ? Servait à payer des armes, des soldats ?
Surtout des armes. L'idée, c'était que vous vendiez par des filières clandestines des diamants qu'on appelle de sang, c'est-à-dire des diamants qui proviennent de pays et de zones en conflit, c'était l'Angola, c'était toute l'Afrique de l'Ouest, pour acheter des armes pour financer une guerre civile.
Les diamants de Sierra Leone qui ont valu quelques mésaventures au top modèle Naomi Campbell. Alors, on plante le décor, on est le 25 septembre 1997. Elle dîne chez Nelson Mandela à Pretoria. Qui est à sa table et qu'est-ce que cette personne va lui promettre ?
Alors, le dîner, d'abord, Nelson Mandela l'organise en faveur d'une de ses associations d'aide à l'enfance et se retrouve à la table d'honneur Mia Farrow, le producteur Quincy Jones et Naomi Campbell. Également, s'est fait inviter le président Taylor du Liberia, qui est au pouvoir depuis 2 ans, qui a une réputation absolument détestable parce que le Liberia a été mêlé à la guerre en Sierra Leone. Et donc, il tombe amoureux de Naomi Campbell. Et il lui dit, je vais vous offrir un diamant. Ou des diamants.
Elle accepte ?
Non seulement elle accepte, elle est très très excitée à l'idée qu'elle va recevoir des diamants, mais elle s'attend à un diamant dans un écrin signé d'un grand joaillier. Et qu'est-ce qu'elle reçoit pendant
une
la
pierre.
Nuit
en pleine nuit, en plus, c'est
en
ce que vous racontez
nuit,
dans votre livre publié
deux
au Talendier.
Gardes de corps oui. Amènent un sac en papier brun qui contient des diamants gris sales alluvisionnaires qui ressemblent à des cailloux. Et donc elle regarde ça avec dégoût. Et elle est très déçue.
Mais ils avaient de la valeur, ces diamants ?
Ces diamants valaient une fortune. Simplement, ils n'avaient pas été traités. Ils devaient être lavés, ils devaient être taillés. Et un grand bijoutier de la place Vendôme en aurait fait une merveille.
Ah, qu'est-ce qu'elle en fait du coup? Elle dit non, non, merci, ou elle est jetée?
Ah non, non, elle les garde, non, et puis elle donne ça à l'association en disant de Mandela, en disant mais écoutez, vous en occupez, ils sont tellement vilains et crasseux, ces diamants. Et donc ces diamants vont rester pendant une dizaine d'années dans un coffre de l'association. Tout le monde a oublié cette histoire jusqu'en 2010, quand Naomi Campbell est appelée devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone, parce que Taylor est jugé pour crime contre l'humanité. Et la déposition de Naomi Campbell est essentielle dans le dossier d'accusation de Taylor, qu'il a fait du trafic de diamants de sang. Et alors, elle dit ne se souvenir de rien. D'ailleurs, elle dit, mais je n'étais pas du tout à côté de Taylor, j'étais à côté de Quincy Jones et de Mandela, j'ai reçu ces diamants, je ne m'en souviens pas. Et puis elle sort cette merveilleuse chose, écoutez-moi, le Liberia, je ne sais pas où c'est. Et en plus, les diamants de sang, je n'ai jamais entendu parler de cela. Donc c'est un effet désastreux, sa carrière a failli capoter à la suite de ce témoignage. Finalement, ça se termine bien, parce que Taylor est condamné à 50 ans de prison.
Alors ce business du diamant, il va aussi apparaître de nouveaux corsaires, des hommes d'affaires aux méthodes pas toujours très nettes. A tout de suite pour en savoir plus sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le marché des diamants dans l'œil de notre curiosité est au cœur d'un livre publié par notre invité, le journaliste Marc Roche, Diamants, quête sur un marché impur aux éditions Thaïlandais. Vous racontez notamment, Marc Roche, l'histoire des nouveaux corsaires de ce secteur. Ce sont trois Israéliens, vous nous les présentez ?
Alors, ils sont trois, ils sont Israéliens, c'est Benny Steinmetz, Dan Gertler et Lev Levayev. Et ils se sont taillés de véritables empires au cœur de l'Afrique. Des empires diamantaires, mais pas seulement du diamant, également d'autres produits miniers. Et eux représentent un cas vraiment nouveau de ce nouveau colonialisme qui fait que l'Afrique est retombée sous le joug d'occidentaux.
Comment ces trois Israéliens se sont fait une place comme ça sur le marché et l'industrie du diamant en Afrique ?
Alors, ils ont profité de l'inefficacité des pays africains, des frontières poreuses, des gouvernements corrompus, également du fait que les ouvriers diamantaires dans ces pays ne sont pas protégés, sont exploités pour passer des accords d'exclusivité qui leur donnent accès à des provinces entières de diamants.
Par exemple, Dan Gertler qui va devenir, je ne sais pas si on peut employer le terme ami, mais en tout cas qui va réussir à gagner la confiance de Kabila, qui était le président de la République démocratique du Congo, si je ne me trompe. Qu'est-ce que ça lui ouvre ?
Eh bien, à 21 ans, au moment où Kabila se bat contre Mobutu, Il propose à Kabila ceci, d'écouter, avec des diamants, avec ma richesse, il a 21 ans, je vais acheter des armes et avec ces armes, vous allez gagner contre Mobutu et puis après, vous me donnez une concession, deux concessions, trois concessions de diamants. Et c'est exactement ce qui se passe.
C'est-à-dire... Mais comment, je vous interromps, à 21 ans, il avait les moyens financiers d'acheter des armes.
Il venait de famille aisée et il avait les moyens d'acheter des armes, suffisamment d'armes pour permettre à Kabila de battre Mobutu, mais surtout, sans doute, il y a eu l'aide, mais cela n'est pas prouvé, des autorités israéliennes.
Marc Roche, un autre corsaire dont vous parlez dans votre livre, un corsaire du diamant, Lev Levayev. Comment a-t-il fait fortune et qui est-il ?
Alors lui, il vient de l'ex-URSS, de l'Ouzbékistan, et il a profité de l'éclatement de l'URSS pour... L'URSS, qui était un gros producteur de diamants, qui avait un stock stratégique pendant la guerre froide, pour justement prendre pied en Angola. Il ne faut pas oublier que le gouvernement angolais, le MPLA, marxiste, était très proche de l'URSS, qui avait permis de prendre le pouvoir contre l'UNITA qui était soutenu par les Sud-Africains.
Donc à l'éclatement du bloc soviétique, qu'est-ce qu'il fait ce
Lev? Eh bien, il propose aux Angolais, avec l'aide sans doute du KGB, mais on ne peut pas le prouver, de lui donner l'exclusivité de la vente du diamant angolais. Et cela lui permet également de prendre pied en Namibie voisine, qui est très riche, elle est très beau diamant, très riche en diamants. Et donc là, il devient le roi non couronné de l'Angola.
Pourquoi vous les appelez les nouveaux corsaires? Parce qu'ils font beaucoup de business sur leur yacht, c'est ça?
Ils ont tous des yachts. Et ils font le business depuis le yacht. Quand on demande à Steinmetz, mais vous êtes basé où? Il me dit, mais là où est mon yacht?
Ce qui lui permet de ne pas être dans les eaux territoriales d'un pays, d'échapper un peu aux lois internationales éventuellement?
Éventuellement, mais aussi, vous savez, les yachts sont très bien accueillis dans les paradis fiscaux. Mmh. Les yachts vont là où les gens riches sont, à qui on peut vendre les diamants. Les yachts vont dans des endroits où on peut faire des affaires.
Alors, dans votre livre publié au Talendier Diamant, Enquête sur un marché impur, vous donnez aussi la part belle à ceux qui essayent de mettre de l'ordre, de remettre, si possible, un peu de moralité dans ce business. Alors, on ne va pas pouvoir tout raconter. Il y a un homme qui s'appelle Mark Van Boxtel qui est important. Puis, il y a aussi une association, enfin une ONG qui s'appelle Global Witness. Qu'est-ce qu'elle dénonce? Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette ONG?
L'ONG Global Witness, qui est basée à Londres, son objectif est la transparence dans le négoce des matières premières en général. Mais elle s'est fait connaître par son combat contre les diamants de sang. C'est elle qui a lancé le même mot d'ordre qui a tué le commerce de la fourrure en disant les diamants, quand vous achetez un diamant, eh bien, il y a du sang. Et les producteurs de diamants ont été absolument paniqués par cette campagne. Et cette campagne a donné naissance à un processus de certification des diamants, qui s'appelle le processus de Kimberley, ça c'est technique, mais qui veut dire que chaque diamant aujourd'hui doit être accompagné d'un certificat qui assure qu'il ne vient pas d'un pays en guerre.
Donc c'est une forme de traçabilité du diamant.
Il y a la traçabilité du diamant, mais en fait, en pratique, ce certificat peut être falsifié.
Ah oui.
Ces diamants transitent par des tas de pays clandestinement et donc notamment par Dubaï, qui est une plaque tournante des diamants de sang. Et donc ces diamants, quand ils arrivent dans les joailleries, on ne sait pas d'où ils viennent.
Mais est-ce que, alors c'est vrai que quand vous nous dites ça, on hésite à acheter un diamant, même ne serait-ce qu'un tout petit, si on souhaite se marier, se fiancer, ou je sais pas, fêter des noces de diamants par exemple. Faire un beau cadeau. Est-ce qu'il y a quand même des filières propres?
Écoutez, bien sûr, le diamant est d'abord merveilleux, c'est un symbole de fidélité, d'amour, mais il faut l'acheter là où on est certain qu'il y a une filière propre, comme vous dites, c'est-à-dire un grand bijoutier, un très grand magasin et ou une salle aux enchères, mais il doit être doté de deux certificats. Le premier, c'est qu'il ne vient pas de pays en guerre, et le second, tout aussi important, est celui d'un laboratoire international qui garantit qu'il n'est pas un diamant synthétique ou un faux diamant ou un diamant dont la couleur a été changée. À ces conditions-là, le diamant doit être acheté, mais il doit être acheté pour le plaisir, pas pour l'investissement. Le diamant n'est pas un produit financier.
Merci beaucoup, Marc Roche. Diamant, enquête sur un marché impur, c'est à lire et c'est aux éditions Talendier.
À suivre dans la curiosité sur RTL, l'ascension d'Adolf Hitler ou comment un peintre raté est devenu l'incarnation du diable.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.